Nous penchant sur le phénomène de la dénatalité, nous avons déjà mis en relief un certain nombre de raisons possibles pour expliquer ce phénomène.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Peut-être cela viendrait-il, et ce serait logique, d'une baisse du nombre de couples. Eh bien, pas du tout. Le nombre des mariages en France a augmenté en 2025. L'Europe compte toujours plus de foyers. Selon les dernières données publiées par Eurostat, le nombre de ménages dans l'Union européenne a même fortement augmenté ces 15 dernières années, passant de 182 millions en 2009 à plus de 202 millions aujourd'hui. Plus de foyers et pourtant moins d'enfants. Car cette hausse ne se traduit pas, nous l'avons déjà dit, par un regain de natalité, bien au contraire. Il faut savoir que, au sens statistique, un ménage désigne l'ensemble des personnes occupant un même logement, qu'elles soient ou non liées par des liens familiaux, ce qui brouille effectivement les pistes. En 2009, plus d'un quart des ménages en Europe comprenaient au moins un enfant. En 2024, ce n'est plus le cas que pour 23% d'entre eux. À l'inverse, les foyers sans enfants ont connu une croissance spectaculaire. Ils représentent désormais plus des trois quarts des ménages dans l'Union européenne. Dans le détail, 11,7% des ménages en Europe vivent avec un enfant, 8,9% avec deux et seulement 3% avec trois enfants ou plus. Le constat est là, le modèle de la famille avec un seul enfant tend à s'imposer dans la plupart des pays. Une seule exception notable, les Pays-Bas, où les familles avec deux enfants demeurent majoritaires. L'Europe vieillit et la structure des familles se transforme. Les tendances démographiques actuelles redessinent en profondeur le visage social du vieux continent. Parmi toutes les raisons qui peuvent expliquer cette chute de la natalité, la raison majeure est sans doute ce que l'on pourrait appeler la déconjugalité. Le sociologue Julien Damon a fait paraître un article au mois de janvier ayant pour titre « La récession des relations amoureuses devient mondiale ». Sa thèse, la voici. La baisse massive de la fécondité, même en Afrique, est liée au déclin du nombre de couples stables, une déconjugalité de laquelle découle une dénatalité. J'insiste sur l'adjectif « stable » parce que, comme nous l'avons vu précédemment, le nombre de couples augmente en Europe. Le nombre de mariages en France augmente aussi. Il ne s'agit donc pas d'une baisse du nombre de couples, mais de la qualité de ces couples et notamment de leur capacité à résister au temps et à certaines épreuves du temps. Nous sommes donc en face d'une dégradation de la qualité des relations, y compris à l'intérieur des couples. On n'a pas d'enfant si on n'a pas de liaison stable. Ça paraît une lapalissade aux yeux de Didier Breton, démographe à l'Université de Strasbourg et chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques. Mais, dit-il, la formation d'un couple stable est l'un des deux préalables à la natalité française hexagonale. Et si ce critère fait défaut, eh bien, les individus qui veulent des enfants peuvent préférer y renoncer. Didier Breton insiste. La question n'est pas tant celle du couple, dit-il. Le célibat de longue durée a diminué. Les réseaux sociaux facilitent les rencontres. Mais la question, c'est la crise de l'engagement sur le long terme. Les couples se nouent, mais souvent se dénouent. Or, pour avoir un enfant, la confiance importe énormément. La confiance en l'avenir du monde, certes, mais surtout la confiance dans le conjoint. La part des gens aujourd'hui en âge d'avoir un enfant est pour moitié issue de parents divorcés. Ils sont donc alertés, ils sont vigilants. Ils guettent dans leur relation les signes d'usure et ils ajournent, par scrupule, le projet parental. Souvent, le ménage craque, il n'y aura donc plus de projet parental. Au couple classique, notre époque lui préfère l'amitié. Il y a moins de déceptions et moins de sacrifices. Et les auteurs féministes qui conseillent aux femmes de sortir du lien conjugal sont nombreux. Ainsi en est-il d'Aline Laurent-Maillard qui milite pour une société où ce qu'elle appelle la famille de cœur, les amis, les parents, prendraient le pas sur le sexe et le couple. Ce dernier étant décrit et souvent vécu comme décevant. Et ici se pose encore une autre question. Si aujourd'hui, pratiquement un couple sur deux vient à se séparer, de quoi cela provient-il ? Est-ce que les couples d'aujourd'hui sont plus fragiles qu'auparavant ? Sont-ils construits sur les mêmes bases ? Et de fait, ici, Luc Ferry, interrogé sur le sujet, apporte des éléments de réponse assez intéressants. Selon lui, la tendance à la prolifération des divorces est liée à la montée en puissance du mariage d'amour. Comme l'avait compris Tocqueville, nous dit-il de façon prophétique, le mariage moderne, choisi par des individus libres, pour des raisons exclusivement sentimentales, conduit paradoxalement bien davantage au divorce que le mariage arrangé, qui était la règle dans le monde ancien. Écoutons le fameux paradoxe de Tocqueville. Rappelons qu'Alexis de Tocqueville fut ministre des Affaires étrangères en France en 1849 et qu'il est considéré comme l'un des pères de la sociologie. Quand chacun choisit toujours lui-même sa compagne, sans que rien d'extérieur ne le gêne, ni même le dirige, ce n'est d'ordinaire que la similitude des goûts et des idées qui rapproche l'homme et la femme. Nos pères avaient conçu une opinion singulière, en fait, de mariage. Comme ils s'étaient aperçus que le petit nombre de mariages d'inclination qui se faisaient de leur temps avait presque toujours eu une issue funeste, ils en avaient conclu résolument qu'en pareille matière, il était très dangereux de consulter son propre cœur. Le hasard leur paraissait plus clairvoyant que le choix. Ainsi conçu par et pour l'amour, le mariage moderne, c'est vrai, se termine souvent par un divorce, rançon de la fragilité des sentiments. Si le couple est fondé à 100% sur les sentiments amoureux de l'origine, il risque fort de s'étioler comme la ferveur des sentiments premiers va s'étioler, ou plutôt va se transformer. Les sentiments doivent dans le temps laisser place à un amour plus fort, plus profond, plus solide. Mais c'est sans doute cette étape que la plupart ne parviennent pas à passer parce qu'ils ont tout misé sur uniquement le sentiment amoureux. Les couples qui se forment aujourd'hui auraient-ils besoin d'une solide formation pour avoir en main tous les éléments leur permettant de construire un couple qui dure? Cette fragilité du couple, cette incertitude de tenir dans le temps, forcément va jouer négativement sur le désir d'avoir des enfants. Car avoir un enfant est une vraie responsabilité qui ne dure pas que quelque temps. Lorsqu'on est parent, on est parent à vie. Et ça n'est pas parce qu'un jour l'enfant s'envolera du nid familial pour mener sa propre vie que vous ne serez plus parent pour autant. Il faut donc avoir confiance dans le couple pour pouvoir faire un enfant. Et il faut avoir aussi confiance dans un certain avenir du monde. Si aujourd'hui des nuages sombres s'accumulent au-dessus de nos têtes, c'est vrai, ce n'est pas à mes yeux une raison pour dire non à la vie et pour se condamner à croupir et mourir seul. Si nos ancêtres avaient eu ce même raisonnement, eh bien nous ne serions pas là. Car ils avaient certainement, suivant les époques, beaucoup plus de crainte à avoir de l'avenir que nous-mêmes ne pouvons en avoir aujourd'hui. Avoir un enfant, c'est faire un pari sur la vie, c'est affirmer que la vie est plus forte que tout. Ayant compris que l'une des raisons majeures de l'effondrement des naissances se trouvait dans la fragilité du couple et son instabilité, un certain nombre d'associations, et je parle ici du monde laïque, ont mis en place des formations pour les couples. Que ce soit à l'aide de contenus vidéo, ou bien dans le cabinet d'un conseiller conjugal, ou bien grâce à des réunions organisées en mairie, de plus en plus de couples choisissent de suivre une préparation au mariage civil. Une association appelée Cap Mariage propose, parmi d'autres, une formation au mariage. Car l'association reconnaît que les futurs mariés ne connaissent même pas les articles qu'ils signent, ni le contrat de mariage par défaut, ni leurs responsabilités, ni les conséquences de certains actes. Mais il ne s'agit pas seulement de connaître la loi. Pour aller plus loin, elle propose une rencontre personnalisée en face à face avec un couple de bénévoles. Ils parleront des bases d'un engagement durable, de l'éducation des enfants, de l'identification et de la gestion des tensions, de la nécessité du dialogue. Bref, une préparation un peu analogue à celle que propose l'Église, amputée malheureusement de la dimension spirituelle.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.